Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Et je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons entendre plusieurs passages bibliques. Le premier sera dans Genèse. Ensuite, nous irons dans Jérémie, Ésaïe et Galates. Donc, on fait un petit voyage dans la parole aujourd'hui. Mais le premier texte est dans Genèse 39, au verset 1. Et je laisse Darius nous lire les textes en te remerciant.
Genèse 39, verset 1 à 10. Je lis la parole du Seigneur. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qui l'entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il envoya à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. » Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'était plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécheresse contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Jérémie 16, versets 1 à 2. Jérémie 16, versets 1 à 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point la femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Après, on passe à Ésaïe 54, 1 et Ésaïe 56, versets 1 à 26. Ésaïe 54, le verset 1. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. On passe à Ésaïe 56, verset 1 à verset 5. Ésaïe 56, verset 1 à verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger puisse s'attacher, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. On va dans Galates 3, à partir du verset 16. Galates chapitre 3, le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et sa postérité. Il n'est pas dit, et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. La parole du Seigneur.
Les célibataires se croient parfois tout seuls, mais celui qui est en Christ ne l'est jamais. C'est d'ailleurs sur son esprit que nous comptons ce matin pour saisir ce que la Bible enseigne. En fait, seuls, nous ne pourrions pas saisir ce que Dieu veut nous dire. L'un n'est pas mieux que l'autre lorsqu'il est vécu selon l'enseignement biblique et qui met l'amour de Dieu au centre des préoccupations, directement suivi par l'amour du prochain. J'aimerais nous rappeler trois faits importants concernant le célibat. Le premier, c'est que tout le monde est célibataire de naissance. Tout le monde est célibataire de naissance, cela veut dire que tout le monde vit un bout de sa vie, en tout cas en tant que célibataire, sans savoir jusqu'à quand. Donc ça, c'est déjà un fait, premier fait. Tout le monde est célibataire de naissance. Deuxième fait, tous les mariés peuvent redevenir célibataires, à tout instant, si le conjoint meurt et personne ne sait quand cela peut arriver. Donc tous les mariés peuvent redevenir célibataires à tout instant, si le conjoint meurt, personne ne sait quand ça peut arriver. C'est vrai qu'il y a malheureusement aussi les séparations, mais qui ne devraient pas se produire lorsque deux conjoints sont habités par Christ. Et troisième fait, c'est qu'à la résurrection, nous serons tous célibataires, tout en étant unis au Christ, l'époux de l'Église. On pourrait dire que nous serons célibataires individuellement et mariés communautairement. Voilà, ça c'est ce qui est devant nous. Donc à la résurrection, nous serons tous célibataires, tout en étant tous unis au Christ, l'époux de l'Église. Cela signifie donc que tout le monde a été concerné par le sujet, plusieurs le sont maintenant, et d'autres le seront de nouveau plus tard, et tous le seront pour l'éternité. Dans notre société, le nombre de célibataires est en augmentation. Les dernières statistiques suisses qui sont disponibles, qui sont de 2023, montrent que le nombre de ménages d'une personne a quadruplé depuis 1970. Et ce sujet est donc d'actualité. Le célibat est quelque chose qui est, ou le fait de vivre seul, pour faire la traduction aussi, est quelque chose de très actuel, parfois même de prôné. Mais avant de nous plonger dans l'enseignement biblique, il est intéressant aussi de constater que dans les deux grandes religions monothéistes non trinitaires, la place du célibat est quasiment nulle, ce qui fait qu'il est souvent stigmatisé dans ces contextes et permet de comprendre pourquoi le célibat est mal vu. Alors pour le judaïsme, le mariage est un commandement divin, ce qui signifie que celui qui reste célibataire n'obéit pas au commandement divin. Au 1er siècle, un rabbin, Rabbi Elazar, disait, je ne dis pas que c'est vrai, je dis ce qu'il dit, un homme qui n'a pas de femme n'est pas véritablement un homme, en référence à Genèse 1, 27. Ou encore, un juif qui ne se préoccupe pas d'assumer ou d'assurer sa descendance, c'est comme s'il versait le sang. Le Talmud, qui est l'ensemble des lois et traditions juives, est allé encore plus loin. Accrochez-vous. L'homme qui n'est pas marié à 20 ans vit dans le péché. Alors nous comprenons que le célibataire qui vit dans un contexte juif ne peut qu'être mal à l'aise se sentir coupable et incomplet. Pour l'islam, le Coran encourage le célibataire à se marier. On voit dans les sourates, hein, « Mariez les célibataires parmi vous !» C'est un ordre qui est donné d'ailleurs. « Que ceux qui ne trouvent pas à se marier restent décents jusqu'à ce que Dieu les enrichisse par sa faveur. » Mahomet lui-même condamnait apparemment la pratique du célibat comme outrepassant la loi de Dieu. Dans le monde antique, à côté des ascètes, certains disaient comme Platon qu'il faudrait une loi qui exige que l'homme se marie. C'est le contexte, c'est juste pour vous donner un peu pourquoi un peu il y a cette notion de où les gens se sont mal à l'aise en étant célibataire ou en voyant des célibataires. Et à première vue, nous pourrions penser que la Bible, surtout l'Ancien Testament, pourrait avoir la même pensée, ce qui met beaucoup de célibataires mal à l'aise. Mais je souhaite, avec l'aide de Dieu, vous démontrer que ce n'est pas le cas. Nous allons donc voir ce que la Bible dit sur le célibat ou quels sont les outils utiles pour ce sujet. Commençons par voir quelques célibataires dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, est-ce que vous connaissez des célibataires dans la Bible ? Alors, le premier célibataire, c'est Adam, avant la création de la femme. Mais nous savons que ça n'a pas duré très long, pas plus qu'une journée, donc c'était très court. Ensuite, nous pouvons penser à Abel, qui était célibataire quand il a été tué par son frère Caïn, très vraisemblablement. Pour certaines personnes, il est clairement dit qu'ils étaient célibataires toute leur vie, comme on a lu un texte avant dans Jérémie. Jérémie, à qui Dieu a demandé de ne pas se marier. Et Jérémie a été prophète de l'Éternel pendant plus de 40 ans, souvent face à de grandes pressions, face à des dangers de mort. Il était totalement consacré à Dieu. D'autres prophètes, comme Élie et Élisée, semblent également avoir été célibataires, tout en étant entourés d'une communauté de prophètes. Là, on n'a pas d'élément qui nous dit oui ou non, simplement il y a des indices qui peuvent nous faire penser à ça. Et deux grandes figures de l'Ancien Testament semblent aussi avoir été célibataires, là je suis un peu plus convaincu, je vais vous expliquer pourquoi. Mais deux personnes de l'Ancien Testament qui sont vraiment des figures aussi, c'est Daniel et Néhémie. Daniel et Néhémie. Ces deux personnes au service des puissants empereurs étaient vraisemblablement eunuques par la main des hommes pour qu'ils ne prennent pas de charge familiale, mais qu'ils soient entièrement au service du roi. Et d'ailleurs, c'est une prophétie qui a été annoncée par Ésaïe. Ésaïe avait dit dans Ésaïe 39, 7, « Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, ils seront des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Les eunuques, aussi nommés chambellans parfois, dans certaines traductions, ce sont des hommes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des enfants. Les souverains avaient ainsi des eunuques qui s'occupaient des harems de femmes, par exemple. Ils étaient certains, comme ça, ben, qu'ils allaient les laisser tranquilles. On voit ça dans le livre d'Esther, par exemple, où il y a des eunuques comme Attac qui s'occupent du harem de femmes. Les rois avaient aussi des eunuques pour avoir des hommes tout dévoués à leur service, qui devaient mettre aucune énergie dans une famille. Ils étaient entièrement consacrés à leur service. Et c'était le cas pour Daniel et Néhémie. Il est dit dans le premier chapitre du livre de Daniel que c'est le chef des eunuques qui s'occupait de Daniel et de ses trois amis. Et nous ne voyons nulle part dans le livre de Daniel de traces de famille. Néhémie, comme Échanson, est aussi au service de l'empereur. Son statut de célibataire a pu grandement l'aider pour mettre toutes ses forces dans la reconstruction des murailles. Et quand on voit tout ce qu'il a fait, tous ses travaux, eh bien on voit qu'il avait besoin de tout son temps et de toute son énergie. Donc Daniel comme Néhémie sont des exemples, des modèles pour les célibataires. Mais nous pouvons aussi nous pencher sur le temps de célibat de Joseph, qui a duré quand même de nombreuses années, et pendant lesquelles lui ne savait pas qu'il allait se marier un jour. Il pensait même que ça n'arriverait sûrement jamais dans sa prison. Et pourtant, il a vécu une vie exemplaire et dévouée. Nous en avons lu une partie tout à l'heure dans Genèse 39, 1 à 10. C'est intéressant de voir que tout ce qu'il faisait, lui, réussissait, et cela est dit lorsqu'il était célibataire. Ça ne veut pas dire que plus tard, il était moins efficace une fois marié, mais ça, c'est plus souligné après. C'est souligné quand il était encore célibataire. David aussi a vécu un temps de célibat fructueux. Il a pris soin du troupeau de son père, composé des chants, combattu le lion et l'ours. Et c'est célibataire qu'il a combattu Goliath en comptant sur Dieu. Le dernier prophète de l'Ancien Testament, celui qui a préparé le chemin du Messie, Jean-Baptiste, semble aussi avoir été célibataire. Lorsque Jésus est présenté au temple, nous rencontrons Anne. Anne, elle était mariée 7 ans, c'est vrai. Mais elle avait 84 ans, 84 ans si vous voulez. Donc en enlevant les 20 premières années et les années de mariage, elle a vécu plus de 50 ans seule. Que faisait-elle ? Elle se consacrait entièrement au service de Dieu dans le temple. Dans Actes 8, nous rencontrons un célibataire qui décide de se faire baptiser sur l'annonce de l'évangile d'Étienne. Il s'agit de l'eunuque éthiopien. Là, il y a même le terme qui est clairement dit. L'eunuque éthiopien, le gestionnaire de fortune de la reine d'Éthiopie. Nous avons bien entendu l'exemple de Paul. Il dit qu'il est seul, Paul. À mon avis, il a été marié, Paul. Je vais vous dire pourquoi. Donc, il était soit veuf, soit divorcé ou séparé de sa femme qui l'aurait quitté lorsqu'il s'est converti. Pourquoi ? Parce que Paul, alors qu'il était dans le Sanhédrin, a voté pour mettre les chrétiens en prison. Vous trouvez ça dans Actes 26, 10. Et pour faire partie du Sanhédrin, il fallait être marié. Voilà pourquoi cette supposition pour Paul du veuvage ou du divorce. Et on peut comprendre que Saul de Tarse, c'est comme ça qu'on le connaît quand il était à fond contre les chrétiens, eh bien, avait vraiment un zèle extrême. Et si pendant ce moment-là, il s'est marié avec quelqu'un, cette personne devait avoir le même zèle que lui. Donc au moment de la conversion, ça a dû être quelque chose d'assez terrible pour cette relation. Mais ça, on n'a pas d'élément clair. On a simplement cet indice qu'il a voté avec le Sanhédrin et qu'il fallait être marié dans le Sanhédrin. Et puis ensuite, Paul nous dit qu'il était seul. On le verra d'ailleurs la prochaine fois quand on parlera de 1 Corinthiens 7. En tous les cas, il est seul dans ses voyages missionnaires et il le dit clairement. Et pour terminer ces exemples, ces modèles qui peuvent encourager, inspirer les célibataires, il y a l'exemple du célibataire le plus accompli, le plus parfait, sans aucune faute, en accord avec toute la volonté de Dieu. Jésus-Christ, évidemment. Jésus-Christ. Et nous allons voir en fait ce que dit Jésus du célibat la prochaine fois, dans Matthieu 19, lorsque nous parlerons du célibat dans le Nouveau Testament. Nous nous arrêterons plus particulièrement sur 1 Corinthiens 7. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous faire réfléchir à la place qu'ont les célibataires dans l'Ancien Testament et comprendre pourquoi il n'y a pas d'enseignement exhaustif et direct sur le célibat. Donc j'aimerais poser quelques bases. Donc afin de comprendre ce que la Bible enseigne, il est important de bien comprendre que la Bible, c'est une révélation avec un centre qui est bien marqué, qui est Jésus-Christ. La Bible a un centre qui est bien marqué, qui est Jésus-Christ. Et l'Ancien Testament pointe vers la venue de la descendance, de la postérité du Messie promis. Ça, c'est l'Ancien Testament. Il pointe vers la descendance, la postérité du Messie promis. Et la Bible n'est pas premièrement un livre qui nous donne des recettes de vie, mais une révélation qui nous indique l'œuvre de rédemption en Jésus-Christ dans l'histoire. Ainsi, nos questions de vie doivent être vues au travers de cette œuvre de rédemption et pas en dehors du centre de la Bible qu'est Jésus-Christ. Donc quand on se pose des questions sur la vie, comment est-ce que je dois vivre le célibat dans lequel je suis, comment est-ce que je dois vivre l'état de marié dans lequel je suis, comment est-ce que je dois vivre dans le cadre de mon travail, enfin vous pouvez reprendre tous les éléments, eh bien on ne doit pas être détaché de Christ et du centre de la parole de Dieu. Alors pourquoi l'Ancien Testament ne parle pas beaucoup de célibat ? Pour le dire simplement, l'Ancien Testament est une histoire réelle qui converge vers un point central, la venue de Dieu sur terre, et pour cette venue, il a fallu une descendance physique que le célibataire ne peut pas donner. Oula, il y a beaucoup d'informations en un coup, je vais juste la relire celle-là. Donc pour le dire simplement, l'Ancien Testament est une histoire réelle qui converge vers un point central, la venue de Dieu sur terre, et pour cette venue, il a fallu une descendance physique que le célibataire ne peut pas donner. Mais il peut l'encourager, l'accompagner, enfin on va le voir. L'Ancien Testament n'est pas contre le célibataire, il ne le rejette pas, il n'a pas un problème en lui-même par rapport au célibat, ce n'est pas une tare à éradiquer, ça doit être très clair. Il n'y a rien contre le célibat dans l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament ne met pas le projecteur sur le célibat, car cet état matrimonial ne fait pas partie de la convergence vers le point central qui est Christ. Tout en disant que Christ lui-même était célibataire, et ça on va le voir la prochaine fois. Donc arrêtons-nous sur quelques aspects qui peuvent poser des problèmes aux célibataires et qui permettront de mieux comprendre l'approche de l'Ancien Testament. Donc là, on va un peu dans des fondements. Hein, et ce sera nos points suivants. On aura un premier point, c'est que fait le célibataire face à cet ordre de se multiplier, par exemple. Ou encore, le développement de la manifestation des alliances, qu'est-ce que ça a à voir avec le célibataire? On va en parler. On a parlé de multiplier, il y a cette notion de descendance annoncée par les prophètes. Puis on arrivera à un dernier point, je vous le dis déjà, ça va déjà un peu vous faire réfléchir. Le dernier point sera la descendance est arrivée. Et ça, c'est un point tournant aussi pour les célibataires. Donc premièrement, l'ordre de se multiplier. Dieu commence par dire à Adam, puis à Noé, hein, puisqu'après Noé, il y a eu le déluge, il n'y a plus personne sauf Noé et sa famille, mais à Adam, il y avait que Adam et Ève, et Noé, de se multiplier, de peupler la terre. Ce qui se fait dans le cadre du mariage. Et il est intéressant de noter à qui, à quels hommes Dieu a demandé de se multiplier et d'être fécond dans la Bible. Dans Genèse 1, 28, ce commandement est donné à Adam et Ève, en ajoutant qu'ils doivent soumettre la terre et dominer les animaux. En fait, Adam et Ève étaient les premiers êtres humains et il est évident que cet ordre leur est donné, car s'ils ne se reproduisent pas, le jour de Jésus-Christ ne peut pas venir. Ok ? Voilà pourquoi ça a été donné comme ordre à eux. Ensuite, dans Genèse 9, 1 et 7, ce commandement est donné à Noé, qui, avec ses fils, étaient les seuls êtres vivants restés sur terre. Et à nouveau, il est évident qu'il soit important qu'il soit fécond, car sans enfant, il n'est pas possible que Christ arrive sur terre. Que le Messie, hein, quand je dis Christ, Messie ou un, je crois qu'on commence à connaître ici dans l'Église, c'est la même chose. Hein. Dans Genèse 35, 11, ce commandement est donné à Jacob, qui est celui qui a été le détonateur de la multiplication du peuple choisi par Dieu pour y faire naître le Messie. Adam, Noé, Jacob. Et la dernière fois, il n'y en a que quatre fois dans la Bible où il est parlé, où il est donné un ordre de se multiplier. Et la quatrième fois, le commandement est donné au peuple exilé à Babylone, parce que s'il n'y avait pas d'enfant, pas de possibilité que Christ arrive pour le reste du peuple. On trouve nulle part ailleurs des ordres, un impératif donné par Dieu d'être fécond et de se multiplier. Toutes les nations, toutes les autres mentions de ce sujet, hein, de la multiplication, eh bien, ce sont des indicatifs ou des promesses que Dieu donne et non pas des impératifs. Donc un premier point important de comprendre, c'est que la fécondité et la multiplication sont données à des personnes clés qui, eux, personnellement, devaient absolument être féconds avec au moins une lignée après eux. Donc on voit que ça a été donné à des personnes clés qui devaient être féconds avec au moins une lignée après eux. Mais tous, tout le monde sur la terre et même dans le peuple, tous personnellement après eux n'étaient pas obligés d'être féconds et de se multiplier pour que Christ vienne. Si des couples à côté du célibataire avaient des enfants, la suite était assurée et les célibataires pouvaient soutenir la descendance. Ils n'étaient pas en dehors de cette œuvre, mais ils n'avaient pas besoin d'avoir plusieurs descendances pour arriver à Christ. Donc le mandat de multiplier peut être soutenu, encouragé, protégé, stimulé par les célibataires. Les personnes seules peuvent soutenir des familles, être des mentors pour des jeunes, d'ardents défenseurs pour la vie, etc. Voyons maintenant le développement dans la manifestation de l'Alliance, qui nous indiquera que la venue de celui qui est le sang de la Bible peut être entourée de personnes mariées et de personnes seules. Dans la première manifestation d'Alliance explicite, Dieu indique une bénédiction générale ou globale à tous les êtres vivants avec Noé. Ça, c'est général, une bénédiction générale. Deuxièmement, la deuxième manifestation d'alliance indique une bénédiction particulière pour un peuple avec Abraham. Hein, Noé, bénédiction générale, Abraham pour un peuple. Et Galates 3,16, qu'on a lu tout à l'heure, nous permet de comprendre que la descendance dont il était question pour Abraham était un descendant, qui est Jésus-Christ. Dans la troisième manifestation d'alliance, Dieu indique que la fécondité, la multiplication, dépend de l'obéissance à sa loi. Ça, c'est avec Moïse. La loi de Dieu, donnée par Moïse, a eu pour effet de démontrer qu'il était impossible de mériter la descendance, qui est une grâce de Dieu, car personne ne peut suivre parfaitement la loi. Donc là, c'est ce qu'on comprend, mais cette descendance, c'est une grâce. On ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Et quatrième manifestation de l'Alliance, Dieu indique une bénédiction particulière pour une lignée royale à David, en lui annonçant un descendant comme roi éternel. En fait, cet éclairage sur ces manifestations d'alliance nous permet de comprendre cette notion de descendance, c'est petit à petit resserré sur une seule lignée. Après David, tous ceux qui étaient en dehors de sa lignée n'étaient pas obligés d'avoir des enfants pour parvenir au Messie et à la bénédiction. Chacun y participait par son soutien à la lignée de David, en transmettant les promesses de Dieu aux générations à venir, en leur enseignant à rester fidèle autant par les paroles que par une vie qui manifeste sa fidélité. Et cela autant pour les mariés avec enfants, les mariés sans enfants, et les célibataires pouvaient le faire. Le développement des manifestations d'alliance nous montre qu'il y a de la place pour les personnes seules qui entourent la lignée qui conduira au Messie. Donc le développement de ces manifestations d'alliance nous montre qu'il y a de la place pour les personnes seules qui entourent la lignée qui conduira au Messie. Passons maintenant à ce point suivant que j'ai annoncé, la descendance annoncée par les prophètes. Il est intéressant de noter que les prophètes dénoncent le peuple qui a traduit l'alliance avec Dieu. Nous trouvons dans les prophètes le jugement de la race humaine, le jugement du peuple d'Israël, le jugement de la lignée royale. Et ce regard en arrière annonce et justifie le jugement de Dieu sur l'homme qui est incapable de donner une descendance selon le critère de Dieu. Et en même temps, et c'est ça que je trouve fabuleux ici, puis là il y a des perles, en même temps les prophètes portent le regard vers l'avant en parlant d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle descendance, d'une nouvelle semence. C'est le prophète Ésaïe qui nous en parle de manière la plus complète. Un passage clé est Ésaïe 6, 11 à 13, lorsqu'Ésaïe parle de l'Éternel qui se manifeste à lui dans le temple. On voit Ésaïe, il est dans le temple et d'un coup, il y a la gloire de l'Éternel qui se manifeste. Ésaïe est là. Et puis, l'Éternel lui demande de prêcher la vérité au peuple afin qu'il ne puisse plus être sauvé. C'était pas facile ce qui se passait pour Ésaïe à ce moment-là. Et puis, Ésaïe demande, mais jusqu'à quand? Et voici ce qui est dit dans Ésaïe 6, 11 à 13. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Je devrais prêcher pour qu'ils ne comprennent pas, etc. Jusqu'à quand? Et il répondit, jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, que le sol dévasté soit en désolation, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et que le pays soit tout à fait abandonné. Et s'il reste encore un dixième des habitants, il repassera par l'incendie. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, sa souche donnera une sainte descendance. Une souche. Vous êtes déjà promené en forêt? Vous avez déjà vu une souche? Une souche, généralement, c'est un arbre mort. Mais ici, il dit à Ésaïe que de cette souche, cet arbre mort, Dieu va donner une descendance. Ésaïe 7 parle de la Vierge qui sera enceinte. Ésaïe 9 parle d'un enfant qui nous est né. Ésaïe 11 parle du rameau qui sortira du tronc d'Ésaïe. Les chants du serviteur les présentent. Un des plus connus est Ésaïe 53, où il est parlé de la souffrance du rejeton comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Ça, c'est dans Ésaïe 53. Ouvrez vos Bibles dans Ésaïe 53, on va un petit peu être dans ces zones-là maintenant. Dans Ésaïe 53, le serviteur meurt sans enfant et il sera retranché des vivants. Et pourtant, regardez le verset 10. Le verset 10, il est juste fabuleux. Donc dans Ésaïe 53, le serviteur meurt sans enfant, il est retranché des vivants, et pourtant au verset 10, il nous est dit, regardez Ésaïe 53, verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance. » Il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Et nous savons maintenant avec le Nouveau Testament que Ésaïe 53 parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est resté célibataire. Et pourtant, il est dit qu'il verra une descendance. Il verra une descendance. Et vous savez comment commence le chapitre 54 d'Ésaïe ? Ben oui, on l'a lu tout à l'heure. Triomphe stérile, toi qui n'as pas enfanté. C'est une description, en fait, des femmes célibataires ou épouses sans enfants. Éclate en cri de triomphe et jubile, toi qui n'as pas connu les douleurs, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Et les hommes célibataires ne sont pas en reste, car un peu plus loin, dans Ésaïe 56, on l'a lu aussi avant, il est dit que l'eunuque, donc c'est un homme qui n'aura jamais d'enfants, ne dise pas « Je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui gardent mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, qui demeureront fermes dans mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison, dans mes murs, un monument et un renom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Et ici, il faut comprendre l'importance du nom qui est perpétué par la descendance. S'il n'y a pas de nom, s'il n'y a pas de descendance, le nom s'arrête. Vous savez ça. S'il n'y a pas de descendant, ben le nom, ben voilà, moi j'ai le nom Wenger, eh bien nous n'aurons pas d'enfants, enfin en tout cas, toute vraisemblance, sauf si on est comme Abraham et Sarah, eh bien le nom s'arrête. Et ça m'a quand même déjà fait beaucoup réfléchir. Parfois avec difficulté, quand je nourris les choses mauvaises ou les découragements. Mais ce texte ici, il est juste fabuleux. Vous avez vu ce qui est écrit ? Je leur donnerai, donc à ceux qui n'ont pas d'enfants, hein, un nom éternel qui ne sera pas retranché. Mon nom est assuré éternellement en Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Si j'ai pris ce temps pour vous montrer que l'Ancien Testament a un objectif clair, l'ordre de se multiplier et le développement des manifestations d'alliance ont pour but de nous conduire à celui qui devait venir, celui qui est venu et est resté célibataire. Celui prévu avant la fondation du monde, qui manifeste la justice et l'amour de Dieu, celui qui a accompli le plan rédempteur dans lequel il veut faire entrer les célibataires et les mariés. Si Jésus est célibataire, il est aussi un modèle des maris en étant l'époux de l'Église. Ils ne font donc pas être surpris ou avoir une mauvaise conscience en lisant l'Ancien Testament en étant célibataire. Cet état, ou seul, hein, cet état n'est pas condamné. Et plus encore, vous ne trouvez aucun commandement qui dise que tout homme et toute femme doit se marier. Ça, vous me le diriez si vous le trouvez. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de commandement. Dans la loi de Moïse, vous trouverez de nombreuses règles entourant le sujet du mariage, mais aucune obligation de mariage. Alors comprenez-moi bien, quand même, avec tout ce que je dis ce matin, je suis pour l'encouragement au mariage et à la procréation qui est le fruit de l'union conjugale. Sans infertilité, sans maladie héréditaire grave connue ou de mission particulière du couple, il n'est pas bon de refuser d'accueillir les enfants fruits de l'amour du couple. Mais je ne vais pas traiter ce sujet, ça nous éloignerait trop du thème traité. Je le mentionne pour signaler que les mariés ont aussi des sujets à traiter qui leur sont propres. Mais le célibat ou d'être seul est aussi une bonne chose, autant bonne que d'être marié. S'il n'est pas beaucoup question des célibataires dans l'Ancien Testament, c'est parce que c'est premièrement l'histoire de la rédemption de Jésus-Christ qui devait venir par une descendance. L'Ancien Testament regardait vers l'avant et l'objectif était d'avoir une descendance, la descendance selon Dieu, le Messie promis. Et chaque couple qui comprenait la promesse de Dieu et qui était dans la lignée, hein, se demandait si ce n'étaient pas eux les parents de cette descendance. Mais vous savez, si dans l'Ancien Testament le mot d'ordre c'était « avoir une descendance », le Nouveau Testament n'a plus le même mot d'ordre. Il s'est transformé. Et avec la venue des descendants, le mot d'ordre est maintenant « être de la descendance ». Dans l'Ancien Testament, nous étions appelés à avoir une descendance. Dans le Nouveau Testament, nous sommes appelés à être de la descendance. C'est ainsi que nous arrivons au dernier point. La descendance est arrivée. La bénédiction de l'Ancien Testament était d'avoir une descendance. La descendance est là. Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, la bénédiction du Nouveau Testament est maintenant d'être de la descendance. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, être de la descendance était également important. Mais Jésus, en Jean 8, indique clairement que la descendance physique n'avait aucune signification sans être une descendance spirituelle mise en pratique. Paul d'ailleurs explique avec plus de détails dans Galates 3 et 4, vous pouvez relire. « Et si c'est par l'enfantement, la descendance de la femme, d'Abraham, de David, que Jésus-Christ est arrivé, que nous recevons la bénédiction, eh bien nous y entrons aussi par l'enfantement, qui s'appelle la naissance divine, la nouvelle naissance. » Donc si c'est par l'enfantement, la descendance de la femme, qui est venu Christ, eh bien nous y entrons aussi, nous, par l'enfantement, la naissance divine, la nouvelle naissance. Ce genre d'enfantement, le fait de conduire à Christ, n'est même pas réservé aux couples mariés. C'est un enfantement auquel Dieu convie aussi les célibataires. Paul, qui était sans conjoint lorsqu'il écrit Galates, disait « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Paul utilise un langage de parent, tout comme Jean, qui appelle ses lecteurs « mes petits-enfants », alors que ce n'étaient pas ses petits-enfants physiques. C'est l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe. La femme stérile a des enfants, l'eunuque a des enfants. Avoir des enfants spirituels, entourés de plus jeunes que nous, les conseiller, être leur confident, disponible, avoir des projets avec eux, les stimuler dans la foi. Mais quelle joie d'être père ou mère spirituelle. Et en fait, tous vous pouvez l'être, étant en couple ou pas. Dans le Nouveau Testament, nous n'avons plus d'incitation à avoir des enfants pour que le Messie promis arrive, pour que la descendance de David arrive. Il est déjà venu, c'est Jésus-Christ. Les enfants continuent à être une bénédiction, un don de Dieu, accompagnés de la responsabilité de les guider vers Dieu. Mais ne pas avoir d'enfants ne constitue pas une malédiction. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus-Christ a pris toutes les malédictions à la croix. Parce que si c'était encore une malédiction de ne pas avoir d'enfants en étant en Christ, c'est que Jésus aurait oublié d'en prendre une sur la croix. En fait, l'Évangile est une nouvelle extraordinaire pour tous les domaines de notre vie. Et aussi pour le temps où on vit seul, qui peut être pour tous au début de vie, mais qui peut arriver encore par la suite. L'être humain s'est détourné de Dieu et est sous le jugement de Dieu dans tous les domaines. Dieu lui-même, par amour, a pourvu au moyen d'être délivré de la juste condamnation qui pèse sur nous tous et qui est accompagnée de malédictions. Mais Jésus est venu vivre une vie parfaite. Il a payé pour nos fautes. Il est ressuscité et il nous appelle à reconnaître notre péché, le regretter, devenir conscient de notre juste condamnation et saisir la grâce de l'œuvre de Christ en croyant en lui, en le considérant comme notre roi et en le manifestant publiquement selon l'ordre du roi. Si vous ne connaissez pas la paix d'une conscience lavée, l'espérance d'une place dans le royaume éternel du roi, qui ne veut que le bien et la motivation à vivre pour Jésus-Christ, qui est l'épanouissement de l'homme, si vous ne connaissez pas ça, venez à Jésus-Christ, que vous soyez seul ou en couple. Nous arrivons à la fin de cette réflexion sur le célibat dans l'Ancien Testament, où nous avons pu voir que même s'il n'y a pas d'enseignement systématique sur le sujet, nous trouvons de merveilleux exemples, comme Daniel, probablement célibataire toute sa vie, non choisi, ou Joseph, dans un temps de célibat, qui les deux peuvent en inspirer plus d'un. Tout comme le célibataire avait déjà sa place dans l'Ancien Testament, il l'a d'autant plus maintenant que le descendant est arrivé. Et nous verrons la prochaine fois que le Nouveau Testament enseigne sur ce sujet et par la suite comment vivre dans la vie de tous les jours en étant seul. Alors ma question, c'est qu'allez-vous prendre avec vous aujourd'hui après cette prédication? Qu'est-ce que vous allez prendre avec vous? Alors oui, il est bon que je vous suggère des applications pour vos vies. C'est bien, ça fait partie de mon job, vous direz. C'est vrai. Mais je nous encourage, lorsque nous écoutons une prédication, tout au long de la prédication, de réfléchir à ce qui pourrait s'appliquer dans ma vie. Quelle vérité Dieu veut me permettre de comprendre là pour la prendre avec moi aujourd'hui. Et si vous le voulez, ben moi je vous encourage à m'envoyer cette semaine un petit mot en m'expliquant quelle est l'application que vous avez prise avec vous dans votre vie de cette prédication. Et vous pouvez bien sûr partager avec d'autres autour de vous. Alors pour ma part, je vais quand même donner deux petites applications. Deux vérités m'ont particulièrement touché dans cette prédication et qui ont en fait des grands impacts et conséquences dans ma vie. Premièrement, si dans l'Ancien Testament le mot d'ordre était d'avoir une descendance, entourer cette descendance, dans le Nouveau Testament, l'ordre est d'entrer dans la descendance de Christ par la nouvelle naissance et entourer ceux qui y entrent. Et ça, ça a un énorme impact. Alors maintenant, on pourrait faire tout un développement pour expliquer chaque élément pratique dans nos vies. Mais l'Ancien Testament, le mot d'ordre était d'avoir une descendance et d'entourer cette descendance. Dans le Nouveau Testament, le mot d'ordre est d'entrer dans la descendance de Christ par la nouvelle naissance et entourer tous ceux qui y entrent. Et deuxièmement, là c'est vrai que c'est aussi un peu plus personnel, mais c'est pour tout le monde aussi, c'est ne pas avoir d'enfant n'est pas une malédiction pour celui qui est en Christ. Car Jésus-Christ a pris toutes les malédictions et il n'a pas oublié celle-là. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, tu vois que le sujet du célibat ou le fait d'être seul est un sujet qui peut parfois peser de telle manière à ce que l'on aimerait des réponses très rapides et toutes faites pour savoir comment le vivre. Et j'aimerais te prier de nous aider, avant d'arriver dans les sujets que nous allons aborder dans l'avenir par rapport à des éléments pratiques, de fonder tout ce que nous vivons sur une saine et bonne compréhension de ta parole. Afin que, Seigneur, nous nous rendons compte que celui qui est célibataire ou celui qui est marié est quelqu'un qui est accepté, accueilli par toi. Depuis la création jusqu'à ton retour. Il n'y a pas de moment dans l'histoire où la situation matrimoniale de quelqu'un fait qu'il est moins, qu'il a moins de valeur. Non, Seigneur. Nous voyons l'Ancien Testament qui nous parle beaucoup de la descendance de celui qui devait venir parce que Christ est le centre. Et en fait, nous nous en réjouissons. C'est tellement bon d'avoir Christ au centre. Te demandons pardon, Seigneur, lorsque nous voulons nous mettre au centre dans ta parole, afin qu'elle parle de nous, de ce que nous vivons, soit dans nos situations de couple ou soit dans nos situations seules. Aide-nous, Seigneur, à voir ta parole qui parle de Christ, premièrement, le centre. Celui qui va ensuite nous donner aussi les grâces, les forces, la compréhension nécessaire pour nos situations. J'aimerais te dire merci parce que ce descendant est arrivé. J'aimerais te dire merci parce que tu nous donnes la grâce de pouvoir entrer dans une joie, dans ce temps où nous sommes après l'avenue de Christ, où même ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants physiquement peuvent être dans une situation familiale épanouie en Christ. Et j'aimerais te prier, Seigneur, et là nous empiétons déjà sur ce que nous verrons par la suite, mais donne-nous, Seigneur, cette grâce de nous accueillir les uns les autres. J'aimerais te prier, Seigneur, que les couples accueillent ceux qui sont seuls. J'aimerais te prier, Seigneur, que ceux qui sont seuls accueillent les couples et les familles, évidemment. Et j'aimerais, Seigneur, te prier de permettre que ces liens les uns avec les autres deviennent si forts que nous nous inquiétons les uns des autres et nous nous intéressons à ce que vivent les uns les autres, même si l'autre ne vit pas exactement ce que je vis. Parce que nous désirons ensemble être uni en Christ, le centre de ta parole, celui qui était annoncé et promis et qui nous unit les uns avec les autres. J'aimerais te dire merci parce que cet évangile qui transforme nos vies, qui nous libère du péché, non seulement fait tout cela, c'est merveilleux déjà, mais nous pousse en fait à l'unité, ensemble, en lui. Eh bien, j'aimerais, Seigneur, te prier de nous donner cette grâce, de le vivre pour ta gloire, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.